La musique classique. Alors que la musique baroque brille de tous ses feux, une esthétique classique, inspirée par la volonté d'ordre et de symétrie chère au roi de France Louis XIV, se dessine en réaction. À la fin du XVIIe siècle, apparaît le concert public de cour qui vient renouveler le concert domestique de chambre ou d'église. La sonate pour orchestre se transforme en symphonie, dans laquelle quatre mouvements de même tonalité se succèdent. Allegro, andante, menuet, presto. Les instruments avant, deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, deux trompettes, deux cors, jouent une partie indépendante de celle des cordes, six violons et quatre altos. En France, la musique française s'oriente de plus en plus vers le théâtre. Les principaux musiciens classiques sont François Couperin, claveciniste et organiste du roi Louis XIV. Il écrit des messes alliant la grandeur à l'esprit dans un nouveau style de clavecin, point de départ de la musique de piano moderne. Jean-Philippe Rameau, auteur d'un traité d'harmonie, écrit des opéras, Castor et Pollux, et des ballets, les Indes galantes, dans la tradition de Lully. Vers 1750, ses œuvres vont déchaîner les passions entre les partisans de la musique française et ceux de la musique italienne. Ces derniers préparent un nouveau genre d'opéra comique où alternent chants et paroles, dont l'auteur le plus connu sera André Modeste Grétry, Richard Cœur de Lion, 1784. De nationalité allemande, mais protégé par Marie-Antoinette, Christoph Willibald Gluck donne une impulsion nouvelle à l'opéra. On trouve chez lui une mélodie expressive et un rythme dérivé de l'art déclamatoire. Son style s'apparente à celui d'un authentique théâtre musical et formera la base de l'évolution de l'opéra au XIXe siècle. En Autriche, Vienne devient le premier centre européen de la culture musicale de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette renommée est le fait de trois grands compositeurs, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven, à l'origine d'une tradition aussi riche que dense. L'œuvre de Haydn ou la symphonie, le quatuor pour instruments à cordes et la sonate pour piano occupent une place de premier choix, illustrent la pratique musicale aristocratique traditionnelle. Chez Mozart, cette tradition s'enrichit d'un autre genre, l'opéra. Beethoven, enfin, mène la musique des petits groupes instrumentaux jusqu'aux extrêmes de l'intimité et de l'individualisation, tout en sauvegardant la forme d'une exécution rigoureuse. La Révolution française ne sonne pas seulement le glas de la monarchie, elle transforme aussi les idées et la société. De nouvelles manières de penser gagnent les musiciens qui rêvent soudainement d'indépendance. L'ère des virtuoses peut commencer. Quant aux chœurs, ils n'ont jamais eu une telle ampleur. En France, inspirée de l'opéra comique italien, la tradition française est prolongée dans le goût gracieux du XVIIIe siècle par François Boieldieu et sa Dame Blanche, 1825. Mais la musique qui reflète par excellence l'âme tourmentée de l'époque est celle du Polonais Frédéric Chopin. Réfugié à Paris en 1831, il éblouit les salons par sa virtuosité comme par son talent de compositeur. Les nocturnes, œuvres pour piano, font étinceler ces deux facettes. Ses compositions sont marquées par le sort dramatique de la Pologne écartelée entre l'Autriche, la Prusse et la Russie qui se la sont partagées. Hector Berlioz, à la fois dans la continuité et la rupture avec le romantisme, crée la symphonie moderne en mariant de vastes sonorités orchestrales. Son goût prononcé pour la démesure le conduit dans le Requiem à tripler ou à quadrupler le nombre de musiciens et de choristes. L'originalité de son œuvre est mal reçue et la première de la damnation de Faust en 1846 est un échec. Il est surtout reconnu à l'étranger. En Allemagne. Tout en continuant de suivre le classicisme viennois, la musique romantique s'en détache au début du XIXe siècle par son goût de l'invention musicale et son mépris d'une ordonnance trop rigoureuse. Franz Schubert, qui en a composé près de 600, atteint le sommet de la création des Lieder avec la truite, la jeune fille et la mort ou le roi des aulnes. Parfaite incarnation du romantisme allemand, Robert Schumann reprend cette veine d'inspiration, comme dans L'amour et la vie d'une femme par exemple, mais se consacre aussi aux œuvres écrites pour le piano, révolutionnant le style d'exécution en vigueur. Très grand admirateur de Bach, il est à l'origine de la Bachgesellschaft, première publication intégrale de l'œuvre du maître avec Félix Mendelssohn. Musicien complet et prototype du chef d'orchestre moderne, c'est ce dernier qui, en 1829, redécouvre la passion selon saint Matthieu. La musique de Bach n'était plus alors publiée depuis 50 ans. Karl Maria von Weber incarne l'opéra romantique en reprenant les légendes populaires germaniques et en créant un style national, Freischütz, Euryanthe, Oberon. La fin du romantisme coïncide avec le règne musical de Johannes Brahms, dont l'œuvre repose sur une structure classique. Il sera le modèle des compositeurs allemands modernes. En Italie, le principal maître de l'école italienne dans le premier 19e, Gioachino Rossini, s'inspire autant de Beaumarchais, comme dans Le Barbier de Séville, que du folklore populaire suisse avec Guillaume Tell, et connaît un succès considérable auprès du public parisien pendant la Restauration, entre 1815 et 1830. À l'aube du romantisme, Paris devient la capitale de l'opéra et les musiciens italiens spécialistes du genre s'y bousculent. La musique de la seconde moitié du 19e. La musique devient un instrument privilégié des revendications nationales. Les musiciens s'inspirent essentiellement du folklore et des mélodies populaires nationales. Les écoles nationales éclosent un peu partout dans le monde, Bohème, pays slave, pays baltes. En France, le désastre de la guerre de 1870 réveille à la fin du 19e siècle des instincts nationalistes qui suscitent l'éclosion de remarquables symphonies. César Franck, musicien belge naturalisé français, Ernest Chausson et Vincent d'Indy en seront les chefs de file. Parallèlement, il existe un courant typiquement français qui tente de renouer avec la tradition nationale de Berlioz, des romantiques et des classiques, Édouard Lalo, Gabriel Fauré et surtout Camille Saint-Saëns, dont la longévité en fait un témoin de nombreux courants, est l'un des plus grands compositeurs français. En Allemagne, la musique du deuxième 19e siècle est dominée par la figure de Richard Wagner, qui veut dans un drame musical complet, le Gesamtkunstwerk, réunir à la fois musique, lyrisme poétique, décor et jeu de scène. Sa source d'inspiration réside essentiellement dans les mythes germaniques, comme dans le cycle des Nibelungen, cependant que le théâtre spécialement aménagé de Bayreuth rend à l'orchestre le rôle dévolu dans la tragédie grecque au cœur, celui d'exprimer une réaction à l'action. Entre 1840 et 1880, il compose notamment le Vaisseau fantôme, Tannhauser, Lohengrin, les maîtres chanteurs de Nuremberg, l'anneau de Nibelung, Tristan et Isolde et Parsifal. Sa théorie musicale et même au-delà sa vision profonde de la société s'exprime dans ses écrits, L'art de la Révolution, L'œuvre d'art de l'avenir, opéra et drame. En Italie, Giuseppe Verdi apparaît comme la synthèse des tendances de l'opéra italien. Giacomo Puccini est un des représentants du vérisme, manifestation proche du réalisme français en opposition avec les héros mythiques de Wagner. Là où Verdi triomphe avec Nabucco, l'éclat patriotique des chœurs repris dans son Aïda, Puccini développe une esthétique inspirée de la situation tragique des classes populaires avec la Bohème ou de l'impossible rapprochement entre deux mondes avec Madame Butterfly.
N'oubliez pas, viva Verdi! Au milieu du XIXe siècle, l'Italie du Nord, la Lombardie et la Vénétie sont sous le contrôle de l'Empire d'Autriche. Les patriotes italiens étouffent sous la tutelle autrichienne, mais les revendications d'indépendance sont très sévèrement réprimées. Dans les années qui précèdent l'unification de l'Italie, en 1859-1860, au profit du roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel, le nom de Verdi est une aubaine inespérée pour les indépendantistes. D'une part, le musicien ne cache pas son ardent désir d'une Italie unifiée et totalement indépendante. D'autre part, son nom est à lui seul une proclamation. Les partisans qui badigeonnent les murs des villes de Viva Verdi écrivent aussi, sans risque de représailles, « Vive V » pour Victor, « E » pour Emmanuel, « R » roi, « I » pour d'Italie.
En Russie, Mikhaïl Glinka, puisant aux sources slaves, sera un modèle pour les musiciens qui le suivront. Piotr Ilitch Tchaïkovski, considéré comme le plus grand symphoniste russe de sa génération, s'inspire dans ses œuvres lyriques de l'identité nationale. Mentionnons aussi Nikolaï Rimsky-Korsakov, très inspiré par Berlioz, ainsi qu'Alexandre Borodine, médecin de formation venu à la composition pour exalter l'âme et le folklore russe. En Bohème, Bedřich Smetana, fondateur de l'école tchèque, est l'auteur de la très célèbre Moldau, du nom du fleuve qui traverse Prague, capitale de la Bohème, avant de parcourir le pays. Par ses accents, Smetana met en avant la liberté du cours du fleuve, libre d'aller où il lui plaît, comme le seront bientôt les Tchèques, espérant se libérer de la tutelle de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Cette tradition est perpétuée par Anton Dvorak, qui révèle au monde entier l'esprit slave et fait de l'opéra de Prague un des tout premiers d'Europe. La musique du début du XXe siècle. Dans le domaine musical aussi, la Première Guerre mondiale constitue une rupture fondamentale. L'éclatement des structures musicales héritées du XIXe siècle permet l'éclosion d'une esthétique nouvelle, fondée sur la recherche de formes nouvelles, de tonalités et de rythmes inspirées des études mathématiques. En France, à partir des années 1900, l'émergence de profondes mutations dans les formes d'écriture musicale laisse entrevoir une nouvelle tendance de la composition. Un certain nombre de musiciens français, ou connaissant le succès en France, vont se distinguer au cours de cette période. On peut citer dans la première moitié du XXe siècle Maurice Ravel, considéré comme un néoclassique moderne, Paul Dukas, que son apprenti sorcier rend célèbre très jeune, Sergueï Prokofiev, qui, avec sa symphonie classique, montre également la voie du néoclassicisme, car nul ne pensait aller plus loin dans le modernisme qu'Igor Stravinsky dans Le Sacre du Printemps de 1913. En Autriche, c'est de ce pays que vient la nouveauté décisive, le bouleversement de la musique du XXe siècle par l'œuvre d'Arnold Schoenberg et de ses élèves Alban Berg et Anton Webern. S'opposant à la classique composition tonale de la musique occidentale, influencée par la musique indienne, Schoenberg s'inspire de la rupture picturale expressionnisme et de son prolongement non figuratif. Il affirme la nécessité d'une musique atonale, les tons n'étant pas plus liés par des rapports fixes que les formes ou les couleurs. Son évolution personnelle le conduit à créer un système à 12 tons, le dodécaphonisme, mais le manque d'élégance de ses compositions pour un public non averti lui vaut un mur d'hostilité et de moquerie. Son Pierrot lunaire de 1912 est ressenti comme une vaste cacophonie. En Russie, plusieurs compositeurs remarquables dominent le monde de la musique dans la première moitié du XXe siècle. Dmitri Chostakovitch signe à 20 ans une première symphonie exceptionnelle. Serge Rachmaninov est l'auteur de 4 concertos pour piano. Ces mutations concernent un langage musical en crise, indétermination d'un côté, sérialisme généralisé de l'autre et des recherches qui développent de nouvelles formes d'expression, musique électronique mixte pour aboutir à de nouvelles conceptions. Sans aller jusqu'à l'atonalité de Schoenberg, Igor Stravinsky aime l'irrégularité du rythme, ses syncopes toniques, et l'illustre avec le Sacre du Printemps donné à Paris en 1913 devant une salle vociférant d'indignation. Ses œuvres précédentes, L'Oiseau de Feu en 1910 et Petrouchka de 1911, avaient été reçues avec enthousiasme. Plus conforme au goût traditionnel du public, ces deux ballets étaient également dansés en vedette par Vaslav Nijinsky, étoile de la troupe russe amenée à Paris par Serge de Diaghilev. Le Sacre du Printemps choque, à la fois par le choix du thème des rites païens et par une orchestration brillante, jugée trop brutale à l'époque. La musique contemporaine. On parle de musique contemporaine pour la musique créée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà remise en cause sous l'influence du dodécaphonisme de Schoenberg ou dans le cadre du groupe des Six, inspiré par Satie et Stravinsky, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Honegger. La musique établie depuis le XVIIIe siècle est ébranlée, non seulement la musique, mais aussi l'écoute de la musique. Le système sériel. Le système sériel développé par Anton Webern est repris après sa mort en 1945 par Pierre Boulez et Karlheinz Stockhausen. Le but de la musique sérielle est d'enregistrer dans un premier temps sur la partition l'intensité, la hauteur, la durée, le timbre de chaque son émis afin de leur appliquer un traitement sériel. Parmi les œuvres les plus représentatives, le premier cahier des structures de Boulez et les contrapuncts de Stockhausen. Après une première phase de sérialisme intégral, ces auteurs réadmettent peu à peu la tradition dans leur mode de composition. Le système aléatoire. Dans le but de dépasser le système sériel, certains compositeurs, tels Yanis Zenakis, mort en 2001, puisent dans les mathématiques des modèles directement applicables à la composition musicale. D'autres, las d'un certain carcan représenté par le sériel et les mathématiques, veulent retrouver une pleine liberté de création et se soumettre à l'aléa en évitant parfois toute intention. Le meilleur représentant de cette musique aléatoire est le nord-américain John Cage, auteur notamment d'un concerto pour piano, publié en 1957-1958. La musique électronique. Compositeur français, Edgar Varèse, 1883-1965, intègre des instruments électroniques à ses créations. La particularité de cette musique est de produire le son de façon différente. Sons de synthèse électronique ou instrumentale, les formules sont variées et produisent des œuvres mixtes, bandes et orchestres, ou préenregistrées, toujours purement électroniques. Les noms rattachés à cette esthétique sont ceux de Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez et Luigi Nono. Les grands genres musicaux. Le genre musical se définit à partir de points précis d'après les genres, les voix, les instruments. Il permet d'opérer une classification entre musique classique, sacrée ou profane, et les genres plus récents, le jazz ou le rock'n'roll par exemple. La musique classique est souvent appelée la grande musique par opposition au côté ludique et varié d'autres types de musique populaire. La musique sacrée. Si elle a un rapport étroit avec les pratiques religieuses, elle ne se confond pas pour autant avec la musique religieuse car cette dernière a pour finalité d'établir une relation directe avec la divinité par le biais des prières et des méditations. La musique sacrée s'exprime par les voix, des cantates, des passions, des requiems et peut être associée à un instrument de musique tel que l'orgue. La cantate, le bel cantare. Le mot cantate signifie quelque chose qui se chante. C'est une composition vocale, à plusieurs voix, avec un accompagnement destiné à la chambre, à l'église ou au concert. C'est d'abord par les créations italiennes que les cantates sont introduites en France. Telle qu'elle était présentée, la cantate se trouvait divisée en trois airs de caractère opposé, rattachés par des ritournelles et des récits. C'est pendant la période baroque qu'elle connaît son apogée. Le mot même de cantate est adopté définitivement en France après 1725. Le requiem. Dès les premières années du XVIIe siècle, l'évolution du genre se manifeste. Le mot requiem signifie « repos » et se définit comme un genre musical religieux interprété par un chœur. La connaissance de l'opéra, de la cantate, de l'oratorio vont en modifier considérablement le genre. Les grands noms liés au requiem sont Mozart, Haydn, Cherubini et son requiem pour la mort de Louis XVIII de 1817, Gounod en 1842, Brahms en 1868, Fauré en 1888 et Duruflé en 1947. L'oratorio. L'oratorio est une œuvre à caractère religieux illustrée par un thème précis dont le sujet est tiré de l'écriture ou de l'histoire sainte. Né dans les oratoires romains, c'est un genre florissant dès le XVIe siècle. Dans les premières décennies du XXe, il désignera plus précisément dans la musique occidentale une partition pour solo, chœurs et orchestres illustrée par une action sacrée ou profane. Il est destiné au concert et non au théâtre, car on n'y trouve ni action, ni costume, ni décor. Le motet. Le motet est une forme musicale apparue au XIIIe siècle, sans accompagnement musical, mais avec une ou plusieurs voix. C'est une pièce écrite sur un texte en latin. Il existait aussi des motets profanes, l'étymologie du mot signifiant « petit mot ». Pendant tout le Moyen Âge, c'est en France la forme principale de polyphonie. Les principaux auteurs de motets sont Guillaume de Machaut, Josquin des Prés, Lully, Scarlatti, Bach, Anton Bruckner-Dans dans la deuxième moitié du XIXe siècle et Théodore Dubois. La musique profane. La musique profane peut être soit vocale, soit instrumentale. Les genres s'en sont multipliés et comprennent notamment l'aria, une mélodie expressive chantée et dont l'accompagnement aujourd'hui est l'opéra, le chœur, accompagné par une partie instrumentale, la mélodie, brève composition pour une voix, accompagnée par un instrument ou un piano. Ceux qui ont dominé la musique occidentale sont l'opéra, l'opérette, le lied et le madrigal. L'aria. L'aria, air, est une mélodie ou un thème facilement reconnaissable. Elle se définit aussi comme une pièce à voix seule avec accompagnement, formant une œuvre isolée ou appartenant à une composition profane ou religieuse. L'aria figure à l'origine dans le répertoire des chanteurs aux luttes, qui se développe au XVIIe siècle, parallèlement à celui du chant polyphonique. La ballade. La ballade est un chant traditionnel narratif de caractère souvent dramatique. Les œuvres du compositeur du XIVe siècle Guillaume de Machaut contiennent environ 80 ballades et chansons balladées. À l'origine, ce sont des chansons à danser, très simples, répandues depuis l'époque des troubadours et caractérisées par la présence d'un refrain, vraisemblablement chanté en chœur. Schubert composa des ballades en s'inspirant des textes de Goethe. Le rondo, pièce musicale où se répète à intervalles réguliers la première phrase ou refrain, restera en usage jusque vers la fin du XVIIIe siècle, où il se fondit dans le rondo. Sonate, de l'italien sonare, soit exécuté par un instrument, est une œuvre instrumentale monothématique. Un thème unique est développé sur le ton principal, puis sur sa dominante. Au XVIe et XVIIe siècle, de plus en plus de compositions instrumentales furent intitulées sonates par opposition aux œuvres vocales da cantare. L'opéra. Les précurseurs de l'opéra, du neutre latin opus, œuvre, sont les comédiens du madrigal de la Renaissance italienne. Poussés par le désir de renouveler le drame antique, quelques compositeurs et érudits se rassemblent dans la maison du comte Bardi, un mécène, où ils discutent de leur art. On oppose parfois le courant italien au courant français. Le premier travaille le bel canto, l'opéra seria, sérieux, sur des sujets mythologiques. Le deuxième préfère l'opéra buffa, bouffe, mieux intégré à la cour du roi, à l'origine de la comédie-ballet et du ballet de cour. Dans la période suivante, naîtra le Singspiel allemand, plus féerique à base de fiction populaire. L'opérette. Émile Littré, dans son Dictionnaire de la langue française, publié entre 1863 et 1873, en donne la définition suivante. Petits opéras sans importance. Opéra de style léger mettant délibérément de son côté la gaieté et le spectacle, l'opérette issue du vaudeville a commencé sur le pavé de Paris. De là naîtra l'opéra comique, dialogue parlé entremêlé de chansons originales. Le nom de Jacques Offenbach y est attaché pour La Belle Hélène en 1864, La Vie parisienne en 1866 ou Les Contes d'Hoffmann, publiés en 1881 à titre posthume. Le lied. Cette petite composition vocale à une ou plusieurs parties, avec ou sans accompagnement musical, sur un texte de langue allemande, connaît un développement important en Autriche et en Allemagne. Les noms de Schubert, Schumann, Strauss, Gustav Mahler et Schoenberg y sont liés. Le madrigal. Dérivé des chansons de troubadour, le madrigal s'impose comme une pièce polyphonique d'inspiration profane. Typique de la Renaissance italienne, il utilise un contrepoint savant chanté à plusieurs voix, généralement a cappella. L'histoire du madrigal est liée à Monteverdi et à ses Scherzi musicali de 1599.